Santé pour tous. Santé pour tous. Interview, reportage et dossiers ponctuent votre magazine Santé pour tous sur Radio de la Paix. Santé pour tous, tous les jeudis, Paul-Bénédicte Bolou.
Face aux défis actuels en matière de santé et dans la perspective d'améliorer la qualité des prestations des soins et services de santé aux populations devenues de plus en plus exigeantes, le ministère en charge de la santé s'est doté de documents politiques. Ce jour, avec le professeur Serge Bonny, gynécologue obstétricien au CHU de Cocody, président de la SEGOCI, il s'agira de faire un bref bilan des actions posées et de ce qui doit être fait pour les droits et la santé sexuelle et reproductive dans notre pays. Pour tout dire, on parlera des enjeux et défis dans ce système ainsi que de l'implication des communautés. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Santé pour tous sur Radio de la Paix.
Les experts de la santé répondent aux questions de santé pour vous éclairer.
Professeur Serge Bonny, vous êtes un gynécologue obstétricien au CHU de Cocody et avec vous on parle des défis et enjeux dans le domaine de la santé, de la reproduction en Côte d'Ivoire. Alors que savoir, professeur?
Les enjeux apparaissent de même avec les défis qu'il y a. D'abord, les indicateurs de prévention relatifs aux SONU. On construit des maternités, des centres de santé et on les équipe pas. Relativement aux soins obstétricaux et néonataux d'urgence. L'OMS dit que par rapport à la disponibilité des soins obstétricaux d'urgence, SONU B et SONU C, il faut qu'il y ait au moins 5 structures. Ça, c'est les normes, hein. Donc, au moins une qui dispense des soins complets lorsqu'on atteint 500 000 habitants. Prenez une ville comme Boaké, qui a plus de 500 000 habitants. Il y a le CHU et puis il n'y a pas d'hôpitaux généraux autour, il n'y a pas de ceci autour, qui prennent en charge d'abord les partenaires avant d'arriver au CHU. Tout le monde va au CHU. À Bobo, pareil. À Bobo doit avoir plus de centres de soins de santé de base pour pouvoir faire face à l'afflux. À Bobo, c'est 1 million d'habitants, hein, sinon plus, hein. Donc, quand on regarde ça, si on arrive à respecter un peu le niveau acceptable, à discuter dessus et à valider les normes, avec les moyens qu'on a, hein. On dit toujours qu'on n'a pas suffisamment de moyens. Mais c'est une bonne allocation des ressources qui va nous permettre de gérer ça. Ces défis-là sont à 3 niveaux. Le niveau central, c'est-à-dire le ministère, le gouvernement. Le niveau opérationnel, c'est-à-dire c'est nous, les praticiens qui sommes sur le terrain. Et puis le niveau communautaire, c'est la population dans laquelle on travaille. Si chacun joue son rôle, on va baisser la mortalité.
Professeur, alors, quel est le rôle que chacun doit jouer pour y arriver?
Au niveau central, ils doivent améliorer la couverture géographique. Faire en sorte qu'il y ait suffisamment de formations sanitaires correctement équipées, correctement reparties sur l'ensemble du territoire et accessibles. Donc, l'amélioration des services offrant des SONU C et des SONU. Moi, je dis toujours que la majorité des problèmes de santé en Côte d'Ivoire concernent la mère et l'enfant. Il ne faut pas se cacher la réalité. Si tu résous les problèmes de santé de la mère et de l'enfant en Côte d'Ivoire, tu as résolu 60% des problèmes de santé en Côte d'Ivoire. La mère et l'enfant. Donc, il faut améliorer ça. La disponibilité des médicaments et des produits sanguins jusqu'au dernier kilomètre. Il faut qu'on arrive à ça. Les médicaments d'abord, et puis le sang ensuite. On a baissé le coût du sang, qui est passé maintenant à 3500 francs la poche. Mais on n'a pas résolu la disponibilité. On dit, maintenant, le sang coûte 3 500, vous pouvez payer. Tout le monde peut se débrouiller. Vous trouvez, mais où avoir le sang maintenant? Où avoir le sang? J'ai posé la question au directeur de la banque de sang. Il faut qu'on repense la politique du sang en Côte d'Ivoire. Il y a des pays qui sont moins nantis que nous, qui ont réglé le problème de la politique de la disponibilité du sang. Au Mali, il y a le don compensateur. Le don compensateur, c'est simple. Tu viens chercher 2 poches de sang, tu amènes 3 parents à qui on prélève. Et même si tu paies 1000 francs la poche de sang, mais au moins tu as assuré le réapprovisionnement en sang et maintenant les gens doivent juste distribuer. J'étais à Odéné. J'ai eu beaucoup de chance de faire des tournées ces derniers temps en qualité de président de la SEGOCI. Odéné, il n'y a pas de centre qui collecte et qui garde le sang. Quand ils ont besoin de sang à Odéné, Ils vont le prendre à main, 300 km. J'ai dit au préfet, même si on met un hélicoptère pour aller chercher le sang à main, le temps que l'hélicoptère revienne, vous avez fini de pisser votre sang et puis vous êtes mort. C'est vous, les administrateurs, l'autorité politique, qui devez attirer l'attention des décideurs sur ce genre d'anomalie. Le renforcement des capacités du personnel au stratégique, ça c'est nous. Nous-mêmes, on doit se sentir concernés pour se mettre à niveau. Et puis on doit avoir mis un système qui fait qu'il y a un renforcement continu des capacités du personnel. Ça, c'est les sociétés savantes, ça c'est les associations professionnelles. Et le ministère doit avoir mis un mécanisme pour dire qu'un médecin qui n'a pas assisté à une séance de formation pendant un an, il y a des points qui lui sont enlevés, il y a des choses, on met un mécanisme. En France, ils appellent ça les points de FMC, formation médicale continue. On regarde ton accréditation. Si pendant 2 ans, tu n'as pas assisté à un congrès, tu n'as pas fait des séances de formation, de remise à niveau, on te retire des points, tu risques de perdre ton accréditation. Parce que l'homme, si tu ne le contrains pas, or la compétence médicale, au bout de 6 mois, elle devient obsolète, elle devient dépassée. Au niveau opérationnel, c'est nous là. On doit tout faire pour baisser les indicateurs de santé. On est passé à 385. Mais on n'est pas content. C'est encore trop élevé pour la Côte d'Ivoire. Amélioration de la qualité des soins. La qualité des soins, ça prend toute la prise en charge. Depuis le moment où la parturiente arrive dans votre centre de santé, la manière dont vous l'accueillez, le délai avec lequel vous la soignez, la façon dont vous la prenez, ce qu'on appelle maintenant les soins humanisés, les soins respectueux, qui font que la femme se sent considérée dans le centre de santé. C'est notre bataille, ça, avec les sages-femmes. Fort heureusement, leur phrase-là a été retirée. Je ne prononcerai pas cette phrase, parce que cette phrase n'était pas digne des sages-femmes. L'amélioration du système de référence et de contre-référence, le renforcement des capacités du personnel aux stratégies nouvelles. Il y a beaucoup de choses qui sont venues pour la prise en charge, l'hémorragie. On parle maintenant des sondes de ballonnets intra-utérins, UBITI, on parle de l'utilisation des prostaglandines, on parle de beaucoup de choses. Il faut que le personnel soit informé et qu'on puisse diffuser ça à échelle. C'est un centre de santé, uniquement les CHU, uniquement les CHR, qui est ça. Tout le monde doit pouvoir. Et c'est là qu'on pose le problème de la délégation des tâches. Dans les chiffres tout à l'heure, j'ai dit 450 gynécos, mais 6000 sages-femmes. 6000 sages-femmes. Elles sont combien de fois plus nombreuses que nous? Presque 12 fois plus nombreuses que nous. Mais si on veut, par amour propre, garder un certain nombre de choses parce qu'on dit que c'est nos prérogatives, on ne va pas s'en sortir. On doit déléguer. La délégation des tâches est obligatoire. La petite sage-femme qui est à Ottawa, elle est à la fois gynéco, elle est à la fois pédiatre. Mais si vous ne la formez pas à prendre en charge les complications d'avortement, si vous ne la formez pas à régler le problème du postpartum immédiat, en sachant mettre un ballonnet intra-utérin, en sachant utiliser les prostaglandines, en sachant utiliser le sulfate de magnésium en cas de crise convulsive. Mais les femmes vont mourir devant elles. Donc il faut qu'on détermine un certain nombre de tâches qu'on peut déléguer aux sages-femmes, même mieux, qu'on va leur concéder. Et s'il faut leur donner un diplôme universitaire additionnel qui fait qu'elles ont une compétence, mais elles seront motivées et puis elles vont rester là. La répartition géographique et la fidélisation du personnel. Les sages-femmes, pour progresser, elles font quoi? Elles passent des concours pour revenir à l'école, pour faire d'autres spécialités. Et on les paie pour la salle d'accouchement. On les paie. Alors, il y a combien de sages-femmes là qui passent pour faire anesthésie, pour faire ORL, pour faire psychiatrie, pour santé publique? On les paie pour ce pourquoi elles ont été initialement formées. Mais si on leur donne la possibilité de progresser dans la filière de sages-femmes, en leur donnant des spécialités pointues. Moi, j'ai dit, il faut qu'on forme les sages-femmes à la pratique de l'échographie. Mais vous ne savez pas quelle bataille le professeur Bonny a dû mener pour que ce soit accepté par les gens qui forment là. Ils disent non, si on les forme, elles vont aller faire les échographies aussi en ville. Elles vont ceci, elles vont cela. J'ai dit, mais si elles bouffent votre pain, que les femmes sont sauvées, où est le problème? Et puis, on a démontré que maintenant, même aujourd'hui, dans la formation initiale de la sage-femme, l'échographie fait partie. Mais la pauvre sage-femme qui a Madinani, si on lui apprend à faire juste un balayage, une localisation placentaire, la position du fœtus, mais elle va évacuer à temps. Si elle fait son échographie au dernier trimestre et puis qu'elle voit que la femme a un placenta bas inséré, un placenta prévu, elle ne va pas la garder à Madinani tout le temps. Elle va dire, toi, trouve un parent à Odéné, tu vas être là-bas parce que il se peut que ton accouchement se termine par une césarienne. Mais elle ne va pas l'évacuer pendant qu'elle saigne. Fidélisation du personnel. Puis il y a le mari aussi qui vient mettre sa bouche dedans. Tu es resté à Madinani pendant trop longtemps, moi je vais prendre une petite Abidjansi. La femme abandonne Madinani, il faut comprendre ça. Mais pourquoi on n'oblige pas le mari, lui, à être affecté à Madinani? Si on veut faire la reconstitution des couples, ce n'est pas la femme seulement qui doit se déplacer. Je vous assure que si ma femme était à Odjene, je me serais fait affecter comme professeur à Odjene.
Qu'en est-il de l'implication de la communauté?
C'est-à-dire qu'on suscite beaucoup d'agents de santé communautaire. On sélectionne les bons messages pour que la communauté soit sensibilisée. Et qu'on puisse surtout se débarrasser des pratiques néfastes qu'il y a. Le mariage précoce, les excisions, les grossesses précoces, rapprochées, multiples. Ce que mon patron, le professeur Bohosoupé à son âme, appelait les quatre trop. Des grossesses trop jeunes, trop nombreuses, trop rapprochées ou trop âgées. Parce qu'il y a un âge aussi où on arrête de faire les enfants. Ça là, c'est des messages qu'il faut passer. La fille a 14 ans, il y a un vieux qui est là. Il est prêt. Mais elle n'est pas formée encore physiologiquement à mener une grossesse. Résultat, bassin rétréci, dystocyte osseuse. Si elle ne meurt pas, elle fait une fistule obstétricale, elle fait ceci, elle fait ça. Dans la région de Bondoukou, Bouna là-bas, où j'ai fait une mission. Les petites filles, on les marie à 12 ans, 13 ans. Et l'année qui suit, elles sont enceintes. Et puis elles accouchent au village. Le périnée pète comme ça. L'enfant est mort, elles ont une fistule vésicale, rectale. On met 4 heures pour réparer ça. Puis le mari prend une autre femme, il la laisse. Elle est en dehors du village. Il faut qu'on lutte aussi sur ça. C'est à nous de donner le message, c'est à nous de sensibiliser. C'est à nous de faire en sorte que tout ça disparaisse. Par exemple de cette femme, son mari ne l'a pas autonomisé, il ne l'a pas responsabilisé, il est parti au travail. Il n'a même pas laissé 1000 francs à la pauvre dame pour pouvoir payer son oro pour aller à la formation sanitaire. On va dire peut-être que lui-même ne les a pas, mais si, parce qu'on les voit. Il laisse la femme à la maison là-bas, à midi ils sont maquillés en train de manger. Comme ce n'est pas possible, ils ont donné 500 francs pour la nourriture de toute la famille.
Alors, quelles sont les perspectives essentielles? Ce sera quoi concrètement pour faire face à tout ce que vous venez d'énumérer?
Le central doit élaborer des documents vrais, faire un plan d'action national budgétisé. On l'avait déjà fait pour 2015-2020. Prendre des directives. L'OMS, heureusement, a donné les directives. Et puis, faire en sorte que les médicaments arrivent là où il faut arriver, les moyens soient mis. Ensuite, renforcement des capacités du personnel, des services offerts. On avance pour arriver à ce qui est essentiel, la volonté politique. Il faut augmenter le budget de la santé. Les chefs d'État ont signé à Abuja que pour qu'un système de santé soit performant, il faut que son budget atteigne au moins 15%. En Côte d'Ivoire, notre budget n'atteint même pas 5% encore. 4 et quelques. Peut-être qu'on a augmenté, mais ça n'arrive pas à 10%. Mais comment vous voulez régler le problème quand il n'y a pas d'argent?
Parlez-nous aussi de la couverture médicale. Quel est votre regard sur justement la question?
C'est le grand chantier. Si on arrive à mettre ça en place, on sauve des vies. Mais il faut le mettre en place en ayant réalisé tous les préalables dont j'ai parlé. Ce n'est pas tout de décréter, mais si on n'a pas mis tous les mécanismes pour que la couverture médicale soit efficiente, on va créer plus de problèmes en ne créant pas de couverture médicale.
Quelle doit être la place de la société savante dans tout ce processus? Jusqu'à quel niveau doivent-elles s'impliquer?
Il faut que les sociétés savantes et les associations professionnelles soient impliquées. Sogosi, SIP, ASFI, SIA, tout le monde doit être mobilisé pour adresser le problème de la mortalité maternelle au plan santé, au-delà des chiffres. Les chiffres, c'est bien, mais il faut savoir que tout décès maternel fait passer de la pauvreté à l'extrême pauvreté. Un couple où la mère meurt, qui était pauvre, rien que la prise en charge de toute le mécanisme qui a conduit à la mort, les rend encore plus pauvres. Que tout ça, c'est le prix économique de la mortalité à maintenir. Le prix social. Il y a eu une étude à grande échelle qui a été faite en Chine à l'époque, a montré que les enfants orphelins d'une mère ont plus de chances de décéder 10 fois multiplié par lorsque la mère est là. L'abandon de la scolarité, 9 fois plus. Et surtout dans notre contexte. Le papa, sa fille a 12 ans, La maman est morte, il a marié au premier venu pour avoir un peu d'argent. Il la sort de l'école pour qu'elle travaille au champ avec lui pour nourrir ce petit frère. L'impact social de la mortalité maternelle n'a pas de prix. C'est pour cela que ce ne doit pas être une affaire des médecins seulement, du système de santé. C'est un enjeu de société. C'est toute la société qui doit prendre en compte le problème de la mortalité maternelle. Avec des actions à haut impact, la volonté politique, une approche multisectorielle des interventions. Quand on dit aux gens que le ministère des infrastructures est partie prenante de la réduction de la mortalité maternelle, les gens à première vue ne comprennent pas. Mais si le ministère fait les routes, si le ministère de la femme, de la famille, fait en sorte que les femmes sont autonomes, que la petite fille n'est pas déscolarisée, éducation nationale, toute la société, toute multisectorielle. Et il y a un engagement politique véritable, avec une implication forte de la communauté. Plus il y aura des gens qui comprendront le vrai problème de la mortalité maternelle, des voix qui vont s'élever de plus en plus, c'est par ça que nous allons gagner la bataille. Et c'est pour cela que nous devons continuer de nous battre, tant que aucune femme ne perd sa vie en donnant la vie. Pour être des mères et heureuses, ça veut dire qu'elles sont vivantes et elles ont leur enfant.
Radio de la paix.
Malgré des avancées, les défis à relever en Côte d'Ivoire restent nombreux, en particulier en matière de droits et de santé sexuelle et reproductive, et plus largement au niveau de la planification familiale. Il est crucial d'adresser certains enjeux stratégiques, le renforcement de l'accès à des services de santé, de la reproduction et ceux du planning familial de proximité et de qualité pour tous et pour toutes. Il existe des solutions innovantes et dont l'impact n'est plus à prouver, comme la délégation des tâches, comme nous le disait le professeur Serge Bonny, chef du service de gynécologie du CHU de Cocody, par ailleurs président de la Société de gynécologie obstétrique de Côte d'Ivoire, Sogossi. Fin de Santé pour tous, merci et à bientôt.